Tôt le matin, alors que la petite ville s'éveillait à peine, le téléphone du poste de police sonna brièvement. Une femme, dont la voix était douce et parfaitement calme, donna son nom et son adresse à l'employé et ajouta doucement « Ma fille est morte. Venez. » Ces paroles ne trahissaient ni panique, ni larmes, comme si elles se contentaient de constater un fait. La conversation dura moins d'une minute, puis la communication fut coupée. Des policiers en patrouille et des ambulanciers furent immédiatement envoyés à l'adresse indiquée. Après quelques minutes seulement, les policiers arrivèrent à la périphérie de la ville, dans une petite maison cachée à l'écart de la rue principale. Le portail était entrouvert et la cour semblait abandonnée depuis longtemps. La porte d'entrée était également déverrouillée et personne ne vint à leur rencontre. En entrant, les agents virent un couloir étroit au bout duquel un escalier menait au premier étage. En haut, les attendait un corridor sombre et mal éclairé, où les parents de la fillette se tenaient silencieusement devant l'une des chambres. L'homme regardait au-delà des visiteurs et serrait fermement son téléphone. La femme les accueillit sans émotion et fit un bref signe de tête vers la porte en disant « Elle est là ». Ils n'en dirent pas plus. Lorsque les ambulanciers et les policiers ouvrirent la porte de la chambre, ils sentirent une odeur lourde et stagnante qui était reconnaissable entre toutes. Dans la pénombre, au milieu d'un désordre de journaux et de sacs, gisait le corps d'une fillette d'environ 12 ans. Elle était immobile sur un lit sans drap, comme si elle avait été oubliée là depuis longtemps. Les médecins confirmèrent que la fillette était déjà morte depuis un certain temps et commencèrent immédiatement leur examen. Le père de la fillette ne réagit pas à la constatation des médecins, murmurant seulement que « tout s'était passé vite ». La mère garda le silence et resta à l'écart. Personne ne montrait d'émotion. Personne ne posait de questions sur les mesures à prendre. Bientôt, des enquêteurs arrivèrent à la maison pour découvrir ce qui s'était passé. Les parents acceptèrent de descendre et de parler aux officiers dans la cuisine encombrée d'objets inutiles. L'homme jouait nerveusement avec son téléphone, tandis que la femme, regardant le sol, dit qu'elle avait appelé, parce que tout était déjà clair. Lorsque les officiers demandèrent quand exactement ils avaient d'art remarqué que leur fille était morte, les réponses des parents divergeaient. La mère mentionnait le petit matin. Le père parlait de la nuit. Pendant la conversation, les ambulanciers et les techniciens de la police scientifique poursuivaient leur examen de la chambre. L'environnement indiquait que l'enfant avait passé beaucoup de temps au lit. Des taches étranges sur le matelas, des traces de saleté sur le sol et sur les murs, des appareils ménagers débranchés. Tout indiquait une longue indifférence aux conditions de vie de la fillette. Les parents n'expliquèrent pas pourquoi ils n'avaient pas cherché de l'aide plus tôt. Aux questions sur les dernières visites médicales, le père se contenta de hausser les épaules et la mère indiqua vaguement des dossiers dans l'armoire. On ne put trouver immédiatement aucun document ou certificat compréhensible. Lorsque le médecin légiste arriva, les parents ne montraient toujours aucun intérêt pour ce qui se passait. Ils observèrent en silence comment le corps d'Anna était soigneusement emporté hors de la maison. Quand les portes s'ouvrirent, l'air frais du matin dissipa un peu l'atmosphère oppressante à l'intérieur. La maison se remplissait progressivement de personnes. Des policiers et des techniciens de la police scientifique recueillaient des preuves qui formeraient plus tard la base de l'enquête. Les voisins regardaient prudemment de côté, sans s'approcher. Tout indiquait que ce n'était pas un accident tragique, mais le résultat de quelque chose de plus grave et peut-être de délibéré. Les officiers qui remplissaient les protocoles notaient, avec réserve, que la fillette avait vécu longtemps dans des conditions difficiles. Les parents n'essayaient pas de se justifier ou d'expliquer exactement ce qui s'était passé. Ils restaient assis silencieusement à l'entrée, attendant d'autres instructions. Finalement, le lieu fut scellé et les officiers commencèrent à partir les uns après les autres. Il ne restait que l'incertitude et un lourd silence, interrompu seulement par la conversation étouffée des policiers. C'est précisément ce bref appel dans le calme du matin qui marqua le début d'une affaire qui allait bientôt ébranler l'opinion publique. Il amènerait les gens à poser des questions auxquelles les parents d'Anna ne donnaient pas de réponse, se limitant à la constatation calme, presque indifférente, « Ma fille est morte. Venez. » La tragédie devint encore plus amère lorsqu'il s'avéra qu'Anna était officiellement un enfant ayant des besoins particuliers depuis sa naissance. La fillette avait besoin de soins constants, de visites médicales régulières et d'exercices spéciaux. À la clinique locale, un neurologue était responsable d'elle, prescrivant les exercices nécessaires et vérifiant régulièrement son état. Cependant, au cours des 3 dernières années, tous les enregistrements d'examens médicaux avaient complètement disparu. Les voisins se souvenaient qu'il y a quelques années, Anna était parfois encore visible à l'extérieur. Elle avait environ 9 ans quand on la voyait tantôt en fauteuil roulant, tantôt se déplaçant lentement à l'aide d'une canne ou d'un coussin. La fillette était toujours silencieuse et restait près de ses parents. Mais bientôt, ses rares promenades cessèrent complètement. Une voisine a déclaré à la police « Anna ne s'est plus montrée dehors depuis environ 5 ans ». Un autre voisin a confirmé qu'il avait vu auparavant la mère emmener Anna chez des médecins, mais qu'il n'avait plus remarqué de tels voyages depuis longtemps. Étrangement, les services médicaux n'ont reçu aucune information indiquant que la famille avait refusé les soins ou avait déménagé ailleurs. Il n'y a pas eu de demande de visites à domicile de médecins ou de spécialistes de la réadaptation. La dernière visite officielle à la clinique a eu lieu il y a 3 ans, lorsque la mère s'est plainte au médecin d'une détérioration de l'état de sa fille. À ce moment-là, une hospitalisation lui a été recommandée, mais elle n'a jamais eu lieu. Il n'y avait pas non plus d'informations sur l'éducation d'Anna. Les enseignants se souvenaient que la fillette manquait beaucoup de cours et avait été mise en enseignement à domicile. Mais il n'y avait pas de rapport sur les résultats ou les visites à domicile des enseignants. Les enseignants ont rapporté que les parents avaient simplement cessé de répondre aux appels et aux lettres, et les travailleurs sociaux n'ont pas pu entrer dans la maison pour l'inspecter. Les voisins ont remarqué que la mère quittait à peine la maison, regardant seulement occasionnellement derrière les rideaux. Le père partait pour des travaux de construction temporaire, rentrait irrégulièrement à la maison et n'apportait pas de provisions alimentaires visibles. Aux questions des voisins sur l'état de la fillette, les parents réagissaient sèchement et évitaient tout contact. Un voisin a essayé de parler avec le père, mais n'a entendu que « nous n'avons pas besoin de contact ». Tous les signes indiquaient qu'Anna était isolée du monde extérieur. Personne n'a remarqué de visite des services sociaux, du personnel médical ou d'organisations caritatives. De l'équipement de soins ou du matériel de réadaptation n'ont pas non plus été apportés à la maison. Bien que la fillette ait officiellement droit à une aide régulière, les enregistrements sur la réception des services sociaux se sont interrompus il y a environ 2 ans. Les amis et les parents de la famille se souvenaient que le contact avait été rompu depuis longtemps. La mère se plaignait du manque d'argent, mais refusait l'aide de centres spécialisés. Les proches ne pouvaient pas entrer dans la maison sans préavis et se heurtaient souvent à la réticence des parents à communiquer. Les voisins n'entendirent pas de signes de conflits ou de violence dans la maison, mais remarquèrent que la famille s'était complètement isolée du monde extérieur. Les enquêteurs ont dû revenir maintes fois à la clinique, aux écoles et aux services sociaux pour recueillir au moins quelques informations. Pourquoi Anna s'est retrouvée dans un tel isolement ? Personne ne pouvait l'expliquer. Les parents évoquaient l'occupation et l'aversion pour l'ingérence des voisins. Mais pourquoi la fillette est-elle restée sans soins de base ? Pourquoi personne n'a-t-il remarqué la détérioration de son état ? Le service de protection de l'enfance a affirmé avoir essayé de visiter la maison il y a quelques années, mais personne n'a ouvert la porte. Et les lettres sont revenues avec la mention « Le destinataire ne répond pas ». Cette histoire n'a été largement connue qu'après l'appel de la mère à la police au sujet de la mort de sa fille. Les médias et le public ont été choqués. Tous se demandaient à comment la famille avait pu ignorer les besoins évidents de l'enfant. Et qui était responsable du manque de contrôle par les services ? La police a expliqué qu'une enquête détaillée était nécessaire. Et le service de soins a fait référence à des tentatives de contact qui étaient à rester sans succès. Aux questions des journalistes, les parents ont répondu brièvement, affirmant qu'ils avaient fait tout leur possible, mais n'avaient ni argent ni ressources. Cependant, aucune demande n'a été enregistrée auprès des fonds de bienfaisance. Cette tragédie a rapidement été entourée de mystères. Comment une fillette avec un handicap officiel pouvait-elle être effectivement enfermée au premier étage? Pourquoi les parents évitaient-ils les contacts et ne cherchèrent-ils pas d'aide? Pourquoi aucun des services sociaux n'a-t-il remarqué que l'enfant avait disparu de leur radar? La police a déterminé que le premier étage de la maison était rarement utilisé, l'électricité y était à peine allumée et les fenêtres étaient constamment fermées. On ne nettoyait pas la chambre d'Anna et on n'achetait pas de médicaments ou de produits de soins spéciaux. Les travailleurs sociaux ont essayé d'organiser une visite à domicile d'un médecin et d'un enseignant, mais ont toujours entendu un refus. On se débrouille seul. L'enquête a conclu que les parents cachaient délibérément Anna aux étrangers. Les voisins n'ont pas vu la fillette sortir ou recevoir de l'aide. Il est devenu clair que l'enfant vivait dans des conditions d'isolement total, sans les soins nécessaires. Il y avait beaucoup de questions et personne n'y donnait de réponse. La police poursuivait l'enquête, essayant de comprendre combien de temps Anna était restée sans aide et pourquoi les parents n'avaient appelé les médecins qu'après sa mort. Cette histoire a laissé un sentiment lourd et a forcé la société à réfléchir à pourquoi personne n'avait pu aider la fillette plus tôt. Anna est née avec une maladie grave qui limitait sa mobilité dès la naissance. Dans les fiches médicales de la polyclinique se trouvaient des notes de médecins décrivant en détail son état et des recommandations pour une observation constante par un neurologue, des massages et des exercices spéciaux. Les médecins qui ont soigné la fillette dans ses premières années de vie se souviennent d'elle comme d'un enfant calme et timide. Cependant, il y a environ 3 ans, les visites de la famille à la clinique ont soudainement cessé. Les parents d'Anna étaient des gens ordinaires d'âge moyen et vivaient dans une petite maison privée à la périphérie de la petite ville. Le père travaillait dans la brigade de réparation locale et effectuait des missions individuelles. Officiellement, il n'était enregistré nulle part et les voisins le voyaient rarement à la maison. La mère n'avait pas non plus d'emploi fixe, bien qu'on la voyait parfois parmi les travailleurs occasionnels. Dans les documents, il n'y avait pas de confirmation de son emploi. Les voisins ont fait remarquer que la famille vivait tranquille et retirée, presque sans contact avec l'environnement. Si quelqu'un essayait de leur offrir de l'aide, les parents répondaient toujours par un bref « tout va bien » et mettaient rapidement fin à la conversation. Un voisin se souvient avoir vu des travailleurs sociaux essayer d'entrer dans la maison, mais repartir très vite, sans expliquer les raisons. Les proches ne pouvaient pas non plus comprendre ce qui se passait. Ils visitaient rarement la famille, car les parents d'Anna préféraient ne pas les laisser entrer. Si quelqu'un venait à l'improviste, la porte n'était ouverte que pour une brève conversation. À toutes les questions sur l'état d'Anna, il répondait d'assaut par des phrases générales comme « Nous avons tout sous contrôle » ou « Ne vous inquiétez pas ». Des amis de la famille ont raconté que les parents étaient auparavant des personnes beaucoup plus ouvertes. Mais depuis que la fillette a commencé à avoir de graves problèmes de santé, ils se sont progressivement éloignés de toutes leurs connaissances. Les enregistrements dans les dossiers médicaux confirment qu'Anna n'a plus été amenée chez des spécialistes à partir d'environ 7 ans. Les services sociaux ont également rapporté qu'ils avaient essayé d'aider la famille, mais personne ne répondait aux appels et les portes n'étaient pas ouvertes. Bientôt, le soutien a été arrêté car il n'y avait pas de retour. Les voisins interrogés par la police après l'incident ont rapporté qu'il était impossible d'entrer dans la maison de cette famille. Ils voyaient la mère revenir parfois avec des courses, disparaître immédiatement derrière le portail et éviter les contacts. Le père n'était pratiquement pas remarqué à la maison. Il apparaissait rarement et tard. Lors de l'inspection de la maison, la police n'a trouvé aucun signe de visite régulière d'étrangers. Les médecins qui sont arrivés sur les lieux de la tragédie ont immédiatement compris que la fillette n'avait pas reçu les soins appropriés. Aucun des connaissances ou des proches ne pouvait se souvenir d'un cas où quelqu'un aurait été admis chez Anna ces dernières années. Aucun document concernant des visites des services sociaux n'a été trouvé, à l'exception de tentatives infructueuses. Au début, les parents essayaient encore de suivre les recommandations des médecins, mais au fil des années, ils se sont de plus en plus éloignés. La mère apparaissait pendant un certain temps à la clinique pour traiter les documents concernant le handicap de sa fille, mais a bientôt complètement cessé de venir. Le père, selon les médecins, n'a jamais participé aux visites médicales. La famille continuait à recevoir des prestations d'invalidité, mais personne ne vérifiait comment ces fonds étaient réellement utilisés. L'enquête a progressivement reconstitué le déroulement des événements. Anna avait besoin de soins sérieux, mais personne ne les lui offrait. Les parents ne cherchaient pas le contact avec les proches ou les travailleurs sociaux et évitaient toute inspection. Les voisins confirmèrent que la famille s'était complètement isolée du monde extérieur et avait restreint l'accès à la fillette. Les archives des services ne conservaient pas de données indiquant que les parents avaient cherché une nounou ou essayé d'obtenir de l'aide de travailleurs sociaux. Tout indiquait qu'après le diagnostic d'une maladie grave, l'isolement de la famille n'avait fait qu'augmenter. Les policiers ont noté dans leur rapport que les parents se repliaient de plus en plus sur eux-mêmes d'année en année et ne laissaient entrer personne dans la maison. Cela signifiait que personne ne savait avec certitude quelle était la situation réelle avec Anna. Les principales questions auxquelles les enquêteurs devaient trouver des réponses concernaient l'absence de soins qualifiés pour enfants, l'ignorance des mesures de soutien social disponibles et la cause d'un isolement aussi profond de la famille. La mère quittait parfois la maison pour acheter de la nourriture et le père partait travailler, mais tous deux évitaient des conversations détaillées sur l'état de leur fille. Les circonstances semblaient étranges. La famille était officiellement classée comme ayant besoin d'aide, mais en réalité, elle cachait la véritable situation. Les enquêteurs ont conclu que les parents restreignaient délibérément l'accès à Anna et cachaient son état. Ce sont précisément ces conclusions qui ont formé la base d'enquête supplémentaire. Lors des premières rencontres avec la police, les parents d'Anna ont expliqué sa mort par des complications de la maladie grave avec laquelle la fillette était née. La mère affirmait qu'ils avaient prétendument essayé de contacter des médecins à plusieurs reprises, mais que des difficultés financières n'avaient pas permis un traitement complet. Elle a dit calmement que sa fille était toujours dans sa chambre et semblait normale ces derniers jours, sans signes inquiétants. Le père a décrit la situation un peu différemment. Il a remarqué de la fièvre chez la fillette et a dit qu'il avait essayé de la nourrir et d'en prendre soin du mieux possible. Ce faisant, il a affirmé ne pas pouvoir appeler de médecin parce qu'il n'avait pas d'assurance maladie. Cependant, lors de conversations détaillées, des doutes sont apparus chez les enquêteurs, car les déclarations des parents divergeaient constamment les unes des autres. La mère insistait sur le fait qu'Anna dormait presque tout le temps et ne se plaignait pas de sa santé, tandis que le père assurait que la fillette se plaignait de douleurs et de fièvre. Lorsqu'on leur a demandé de donner au moins une date approximative de la détérioration, ils n'ont pas pu répondre concrètement. Tous deux évoquaient des dépenses inattendues et l'impossibilité d'organiser rapidement une aide médicale. La vérification a révélé qu'il n'y avait eu aucune demande à la clinique ni appel d'urgence depuis cette maison au cours des derniers mois. Les médecins qui travaillaient dans la région ne se souvenaient pas du nom de famille d'Anna et n'ont confirmé aucune visite chez elle. La police a même vérifié des possibilités alternatives d'aide, mais n'a trouvé aucune confirmation de demande auprès de médecins privés ou non officiels. De plus, il n'y avait pas non plus de nouvelles demandes des parents aux services sociaux pour une aide supplémentaire ou un remboursement des coûts. L'argent transféré à la famille comme allocation d'invalidité pour Anna arrivait régulièrement sur le compte, mais n'était pas utilisé pour son traitement. Il semblait que les parents évitaient les soins médicaux officiels, bien qu'ils auraient pu recevoir du soutien. Les divergences se sont poursuivies dans les récits concernant les derniers jours de vie d'Anna. La mère affirmait ne pas avoir remarqué que sa fille pourrait être en train de mourir et répétait « Il n'y avait rien de spécial ». Le père, en revanche, a dit « J'ai vu qu'elle était chaude, mais j'ai pensé que ça passerait tout seul ». La clinique n'a enregistré aucune demande d'hospitalisation. Il n'y a pas eu non plus d'appel d'urgence. Les parents n'ont pu présenter aucune ordonnance médicale et ont mentionné qu'il y avait peut-être des prescriptions, mais qu'ils ne les avaient pas conservées, car l'état d'Anna leur semblait normal. La vérification des pharmacies n'a révélé aucun achat de médicaments spécialisés. Il y avait également des incohérences dans la description de la routine quotidienne d'Anna. La mère assurait que la fillette se levait à peine, tandis que le père affirmait qu'elle essayait de se déplacer indépendamment. Les tentatives de vérifier les déclarations des parents concernant la recherche de médecins dans d'autres villes n'ont pas non plus donné de résultats. Ni les appels téléphoniques, ni la correspondance avec des médecins n'ont été trouvés. Le père a dit qu'il ne faisait pas confiance aux médecins locaux et cherchèrent des spécialistes dans une autre ville, mais aucune confirmation de voyage n'a été trouvée. Ces contradictions ont éveillé de sérieux doutes chez les enquêteurs. Une inspection supplémentaire de la maison a montré que la chambre d'Anna était extrêmement négligée, sans signe de soins ou d'observation médicale. Il manquait même les équipements les plus simples pour maintenir son état. Les parents ont expliqué l'absence d'appel d'urgence en disant que ceux-ci n'étaient prétendument pas acceptés sans paiement, mais les répartiteurs du service d'urgence ont réfuté cette information. La version des parents sur l'inévitabilité de la mort d'Anna en raison d'une maladie grave n'a pas résisté à la vérification. Rien ne confirmait leurs paroles sur des tentatives de traitement, et les reçus alimentaires de la maison montraient bon que l'alimentation de la fillette ne tenait pas compte de ses besoins particuliers. Les experts ont souligné des signes de soins inadéquats et de négligence. Les parents n'ont pas pu expliquer pourquoi ils n'avaient pas remarqué la détérioration de l'état de leur fille. Chaque nouvelle question entraînait davantage d'écart dans leur récit. La mère a dit qu'elle ne se souvenait pas des dates exactes, et le père a affirmé avoir remarqué des symptômes de maladie une semaine avant l'incident. Ces détails ont fait douter sérieusement la police de la sincérité des parents. L'absence de documents, de dossiers médicaux et de faits concernant les visites médicales nécessitait une enquête approfondie supplémentaire. Les médecins consultés par la police ont déclaré qu'Anna aurait pu vivre normalement malgré le diagnostic grave si elle avait reçu une aide opportune. Ainsi, les premières déclarations des parents n'ont fait qu'intensifier l'incertitude de la situation. Les enquêteurs devaient découvrir comment une famille qui recevait officiellement du soutien et avait accès à des soins médicaux s'est retrouvée dans une situation où un enfant est mort sans les soins nécessaires. Les contradictions entre les paroles et les faits réels sont devenus un moment important de l'enquête et ont poussé la police à enquêter sur des causes plus profondes de la tragédie. Les résultats du premier examen sont devenus le tournant dans l'enquête sur la tragédie d'Anna. Lorsque le médecin légiste a commencé l'examen, il a découvert sur le corps de la fillette de profondes escarres, indiquant qu'elle ne s'était pratiquement pas déplacée pendant une longue période. De plus, des signes d'infection grave ont été constatés, causés par un manque prolongé de soins. Ces faits contredisaient ce que les parents avaient dit à la police. Selon leurs mots, l'état d'Anna s'était détérioré littéralement en quelques jours. Les experts ont expliqué que de telles blessures et escarres ne peuvent pas apparaître rapidement. Elles surviennent lors d'une inactivité prolongée et d'un manque de soins minimaux pour une personne alitée. Le médecin légiste a noté plusieurs lésions cutanées, dont certaines étaient enflammées. Cependant, les parents répétaient avec insistance qu'ils n'avaient remarqué le problème que la veille de la mort d'Anna. Toutes les preuves recueillies indiquaient clairement que la fillette était immobile depuis plusieurs semaines, voire plus longtemps. Les experts ont trouvé des confirmations supplémentaires sur le matelas où Anna était couchée. On y voyait clairement des traces d'un long séjour dans une position. Le matelas était souillé et déformé, comme c'est le cas en l'absence de soins réguliers. L'un des spécialistes indépendants a expliqué directement « Il est impossible qu'un enfant dans un tel état se soit levé parfois récemment ou se soit déplacé indépendamment. » Ces découvertes ont complètement changé le cours de l'enquête. Au début, il semblait que la cause du décès était la maladie avec laquelle Anna était née. Mais maintenant, la situation apparaissait complètement différente. Le procureur a ordonné de vérifier la version selon laquelle les parents n'avaient pas fourni l'aide nécessaire à l'enfant pendant une longue période. Selon les experts, il n'y aurait pas eu de conséquences aussi graves si la fillette avait effectivement reçu des soins réguliers. Les médecins légistes ont établi que l'état du corps d'Anna indiquait que la fillette ne pouvait pas changer de position indépendamment. Aucun médecin ou aide-soignant n'a confirmé de visite chez Anna au cours des derniers mois, et aucun document médical confirmant un traitement n'a été trouvé. Pendant ce temps, les parents continuaient à affirmer avoir fait tout ce qu'ils pouvaient, bien qu'il n'y ait aucune preuve de cela. Aucun dispositif médical spécial pour les personnes alitées n'a été trouvé dans la chambre, ce qui soulevait également des questions. Dans les protocoles, les policiers ont noté que de telles blessures ne surviennent que lorsque les recommandations médicales concernant le retournement régulier du patient et la prévention des escarres sont complètement ignorées. Les conditions dans la pièce où se trouvait la fillette indiquaient également l'absence même d'hygiène élémentaire. aucun ustensile médical ou moyen de soigner les plaies n'a été trouvé dans la maison. Les divergences entre les déclarations des parents et les conclusions des experts étaient évidentes. La mère affirmait qu'Anna s'était levée indépendamment la veille, et le père disait avoir vu la fillette boire de l'eau seule. Ces paroles ne correspondaient pas du tout à ce que les techniciens criminels et les pathologistes avaient établi. Désormais, personne ne considérait plus ce qui s'était passé comme une simple négligence. Le parquet a commencé à considérer les actions des parents comme un possible crime. Une tragédie apparemment ordinaire s'est transformée en suspicion d'inactivité criminelle des parents. Les déclarations sur des symptômes soudains ont été réfutées par des rapports médicaux. De telles complications ne pouvaient pas survenir en quelques jours. Cela a permis aux enquêteurs de supposer que les parents avaient délibérément évité de recourir à une aide médicale. Avec cela, l'enquête a atteint un niveau complètement nouveau. Maintenant, les enquêteurs devaient comprendre pendant combien de temps et consciemment les parents avaient ignoré l'état de leur fille. Compte tenu des nouvelles circonstances, un examen des conditions de vie d'Anna, de son alimentation et des possibilités financières de la famille a commencé. L'affaire n'était plus simplement considérée comme un décès dû à une maladie grave. Il s'agissait maintenant du fait que l'enfant s'était vu refuser les soins minimaux. Le statut des parents a radicalement changé. Ils sont devenus des accusés dans une procédure pénale. L'enquête leur posait maintenant des questions concrètes et dures, exigeant des explications pour chaque fait. Les parents continuaient à insister sur leur version, mais dans les dossiers de l'affaire, il était déjà clairement indiqué que la combinaison d'escarres, d'infections et l'absence de documents médicaux ne laissaient aucun doute quant à l'inactivité systématique. Les enquêteurs ont intensifié leur travail, des experts supplémentaires ont été convoqués, confirmant que les escarres étaient apparues au moins quelques semaines auparavant. Ainsi, la version des parents de « mort subite » a été définitivement rejetée. Ils devaient expliquer pourquoi ils n'avaient pas cherché d'aide pendant une période aussi longue. Ce fut le moment décisif quand il est devenu clair. La mort d'Anna n'était pas simplement un résultat inévitable d'une maladie, mais le résultat de l'indifférence et de l'inaction de personnes proches. Toutes les déclarations des parents sur le caractère désespéré de la situation apparaissaient maintenant comme une tentative de se dégager de leurs responsabilités. Les escarres et les infections témoignaient sans équivoque de l'absence totale de soins appropriés. À partir de ce moment, l'enquête a pris un caractère strict et minutieux. La police et le parquet ont commencé à recueillir des preuves détaillées et à vérifier la situation financière de la famille. Personne ne croyait plus à l'histoire d'une tragédie soudaine. Au contraire, il était évident qu'Anna avait été maintenue pendant longtemps dans des conditions indignes de vie. C'est précisément cette compréhension qui a poussé les enquêteurs à une enquête profonde et détaillée sur les véritables causes de la tragédie. Lorsque les enquêteurs ont eu accès aux dossiers médicaux d'Anna, il est devenu clair que la fillette avait vu un médecin pour la dernière fois il y a environ 3 ans. Le neurologue avait laissé des instructions très concrètes. Anna avait besoin de massages réguliers, d'exercices physiques et de visites à domicile obligatoires d'une infirmière. Les documents soulignaient la nécessité de surveiller le poids et l'équilibre hydrique, d'appliquer des moyens spéciaux contre les escarres et de consulter immédiatement des spécialistes en cas de détérioration de l'état. Le médecin avait noté séparément un régime strict de réhabilitation et une surveillance constante sont nécessaires. Cependant, les enquêteurs n'ont trouvé aucune confirmation que ces recommandations aient été suivies. Les enquêteurs ont vérifié les informations à la clinique du district et ont tenté de savoir si la famille avait demandé de l'aide à nouveau. La réponse était claire. Après la dernière visite, il y a 3 ans, aucun nouvel enregistrement n'était apparu, à l'exception de rappels obsolètes d'examens programmés. Il n'y a pas eu non plus une seule visite à domicile d'une infirmière et les services sociaux ont confirmé qu'ils n'avaient reçu aucune demande des parents. En outre, la police a continué à discuter avec les voisins pour comprendre quand Anna avait été vue pour la dernière fois. Il s'est avéré que personne n'avait vu la fillette depuis plus d'un an, peut-être beaucoup plus. Un voisin se souvenait de l'avoir vue une fois il y a longtemps en fauteuil roulant à côté de sa mère, mais de tels incidents avaient cessé depuis longtemps. Un autre voisin a dit « Nous pensions qu'il se débrouillait seul, et a ajouté qu'il n'avait jamais remarqué l'arrivée de travailleurs sociaux. En fait, personne n'a vu de signe que la famille s'occupait de la réhabilitation de la fillette. Des examens médicaux supplémentaires ont soulevé encore plus de questions. Les experts ont découvert chez Anna une émaciation grave et une déshydratation critique. Ils ont souligné une forte carence en nutriments et un fort déséquilibre d'éléments importants dans l'organisme. Selon leur dire, de tels problèmes sont facilement évitables avec des soins normaux et une consultation opportune de médecin. Une attention particulière des enquêteurs a été attirée par les nombreuses escarres sur le corps de la fillette. Ces plaies étaient profondes, avec des signes d'infection bactérienne, et se sont évidemment formées non pas sur quelques jours, mais sur de nombreuses semaines. Les experts ont souligné qu'avec une attention médicale minimale, ces lésions auraient pu être prévenues ou guéries à des stades précoces. Les infections causées par les escarres avaient fortement affaibli l'organisme d'Anna et l'avaient rendue extrêmement vulnérable. Cela réfutait complètement la version des parents d'une détérioration soudaine. Les enquêteurs ont étudié attentivement les commentaires du médecin légiste, qui a expliqué que l'état de la fillette indiquait clairement l'absence à long terme de la thérapie et des soins minimalement nécessaires. Les documents confirmaient également qu'il aurait existé des possibilités de survie si les parents avaient permis aux médecins et aux spécialistes d'accéder à Anna. Les experts s'accordaient à dire qu'une hospitalisation ou au moins des visites à domicile de médecins auraient tant pu améliorer significativement la situation. L'enquête a révélé que la famille, malgré ses faibles revenus, aurait pu recevoir une aide d'État gratuite. La loi leur garantissait l'accès à des services infirmiers, des lits spéciaux et des moyens de réhabilitation. Cependant, les parents avaient rejeté le soutien il y a environ 4 ans, déclarant qu'ils n'avaient pas besoin d'ingérence extérieure. La vérification des pharmacies a également montré que les parents n'achetaient pas de médicaments spéciaux ou de produits pour les soins des escarres. Normalement, dans de tels cas, il y a des ordonnances régulières pour des antiseptiques et des préparations anti-inflammatoires. Mais ici, rien de tel n'a été trouvé. Aucun achat lié à l'état d'Anna n'a été enregistré dans les pharmacies voisines. Dans la chambre d'Anna, les enquêteurs n'ont pas non plus trouvé de signes d'alimentation spéciale ou d'apport hydrique adéquat, nécessaire dans ces maladies. Les aliments dans la maison étaient en standard, plutôt destinés aux adultes, sans adaptation particulière pour un enfant nécessiteux. Cela était également confirmé par les reçus de magasins trouvés dans la maison. Il était important de comprendre pourquoi les parents ne s'étaient pas adressés à des organisations caritatives ou à des institutions d'État qui fournissent gratuitement des moyens et des équipements nécessaires. Aucune demande à de telles organisations n'a été enregistrée. Les employés de fondations ont confirmé que la famille ne leur avait jamais demandé d'aide et ne les avait même pas informés de l'existence d'un enfant malade. Toutes les informations recueillies par les enquêteurs brossaient un tableau triste. Anna était restée longtemps sans soins médicaux appropriés. Formellement, elle figurait sur la liste des patients nécessitant un soutien. Mais en fait, personne n'avait essayé de l'aider. Les enseignants de l'école n'ont pas non plus reçu d'informations sur son état, car les parents avaient cessé de répondre aux appels et aux messages. Ainsi, l'enquête a obtenu une clarté totale. Anna n'avait pas reçu l'aide nécessaire pendant des années. Les voisins ne l'avaient donc pas vue depuis longtemps, et l'examen médical confirmait une négligence à long terme de la santé de la fillette. Selon les spécialistes, elle aurait eu une chance de vie normale si les parents n'avaient, il ne faut pas ignorer les instructions des médecins et avaient cherché un soutien en temps opportun. Ces conclusions sont devenues la base d'une qualification plus sévère de l'affaire. Les enquêteurs ont commencé à considérer ce qui s'était passé comme le résultat d'un isolement conscient de l'enfant et d'un refus total d'aide. La police a entamé une vérification détaillée de la façon dont les parents avaient utilisé les subventions et pourquoi ils n'avaient pas pris de mesures pour sauver leur fille. Personne ne doutait plus qu'on aurait pu aider Anna si les parents avaient montré de la sollicitude et profité de l'aide à laquelle ils avaient droit en vertu de la loi. Plus l'enquête avançait, plus l'image de la négligence des besoins d'Anna devenait claire et tragique. Malgré les affirmations des parents selon lesquelles ils auraient prétendument fait tout leur possible, les preuves parlaient un langage complètement différent. Chaque nouvelle conversation avec les parents durait longtemps et était pleine de tensions. La mère répétait d'une voix fatiguée : Nous étions dans une situation sans issue. Nous n'avions ni argent, ni force. Tandis que le père évitait les réponses directes et ne parlait que de la situation financière difficile de la famille. Pendant ce temps, les techniciens criminels examinaient soigneusement la chambre où Anna avait passé les derniers mois de sa vie. Ils examinaient les draps, les tapis et les sols, recueillant des échantillons. Les examens de laboratoire ont confirmé que la chambre n'avait pas été nettoyée depuis longtemps. Sur les surfaces, pense, étaient accumulées des couches de saleté et des traces organiques qui ne pouvaient d'eau se former qu'après une longue absence de nettoyage. Les experts ont expliqué à l'unanimité qu'avec des soins appropriés, de tels résultats n'auraient pas été possibles. Les parents se sont embrouillés lors des interrogatoires dans leurs déclarations sur la fréquence à laquelle ils nettoyaient la chambre d'Anna. La mère affirmait qu'elle nettoyait tous les jours, tandis que le père disait qu'il n'était pas au courant parce qu'il était rarement à la maison. La situation réelle dans la chambre parlait de quelque chose de complètement différent. Les photos prises sur les lieux montraient là le chaos et la négligence, et les objets éparpillés partout rendèrent la pièce presque impénétrable. Cela ne correspondait pas aux affirmations des parents concernant des soins réguliers. Pendant tout ce temps, la police ne s'est pas précipitée pour accuser officiellement les parents. Il était important de vérifier soigneusement combien de temps la fillette était restée sans soins adéquats. Les enquêteurs ont découvert qu'Anna avait cessé d'apparaître dans la rue il y a environ un an, et que ni infirmières ni travailleurs sociaux n'avaient été vus par aucun des voisins. La mère affirmait avec persistance avoir invité des médecins, mais prétendument personne n'était venu. Cependant, une vérification des services sociaux et de la polyclinique a révélé qu'aucune demande n'avait été reçue de la famille. Une attention particulière a été accordée au matelas sur lequel la fillette était couchée. Les experts y ont découvert de profondes couches de saleté et ont fait remarquer que de telles traces ne se forment qu'après une longue période sans mouvement et sans soins. Les techniciens criminels ont confirmé si Anna avait vraiment reçu une aide régulière, le tableau aurait été complètement différent. La police a vérifié les drogueries et établi que les parents n'achetaient pas de produits de nettoyage ou d'articles d'hygiène en grande quantité. Parallèlement, les transactions financières de la famille ont été vérifiées. Les enquêteurs ont établi que les parents recevaient régulièrement des allocations d'invalidité pour Anna, mais cet argent était rapidement retiré, sans trace de dépenses pour des traitements ou des soins. La mère justifiait cela par de grandes dettes, mais aucune preuve de l'existence de telles dettes n'a été trouvée. Le père évitait de parler d'argent et changeait rapidement de sujet lorsque la conversation tournait vers les finances. Les parents affirmaient que prétendument la fillette allait mieux à la maison et qu'elle-même ne voulait aller nulle part. Mais les services sociaux ont confirmé que l'accès à la maison était bloqué depuis longtemps. Il y a un enregistrement d'un travailleur social. La mère n'ouvre pas la porte. Après cela, aucune tentative n'a été faite pour vérifier les conditions de vie de l'enfant, car la famille avait formellement rejeté l'aide. Peu à peu, le tableau est devenu absolument clair. Les parents ne s'occupaient ni de la chambre ni de l'enfant, le personnel médical ne confirmait aucune demande, et les pharmacies n'enregistraient aucun achat de préparation nécessaire. Les voisins ne remarquaient aucun signe d'aide extérieure pour la famille. Ainsi, il est devenu évident que les paroles des parents s'écartaient complètement de la réalité. À ce stade, l'enquête s'approchait de la solution. Les parents évitaient délibérément les vérifications externes, vivaient isolés et ne prenaient pas de mesures pour améliorer les conditions de vie d'Anna. Les enquêteurs ont commencé à soupçonner que derrière ce comportement, il n'y avait pas seulement une impuissance financière, mais aussi le manque de volonté des parents de s'occuper de l'enfant. De nouveaux rapports médicaux ont confirmé qu'Anna aurait eu toutes les chances d'éviter la tragédie si les parents avaient suivi les règles élémentaires de soins. Cela a conduit la police à parler à nouveau avec les parents, cette fois avec des questions dures et inconfortables. Lors de ces conversations, les enquêteurs ont montré aux parents des photos de la maison, des documents financiers et des résultats d'examen. Peu à peu, toutes les voies vers des justifications se sont fermées. Les parents ne pouvaient plus expliquer de manière plausible pourquoi ils n'avaient pas profité de l'aide gratuite à laquelle ils avaient droit en vertu de la loi. La mère a de nouveau parlé de sa fatigue et le père a admis qu'il n'avait pas complètement compris la gravité de la situation. Mais les enquêteurs trouvèrent de plus en plus de preuves que les parents auraient pu demander de l'aide, mais ne l'ont obstinément pas fait. Ainsi, l'enquête est arrivée au point où la police était prête à porter des accusations officielles. Mais avant, ils ont décidé de clarifier définitivement tous les détails et de recueillir une base complète de preuves. Entretiens avec des proches, documents financiers, rapports d'experts. Tout cela a permis de créer une image complète de la façon dont Anna a été progressivement privée de soins minimaux. La solution finale était proche. La cause de la tragédie ne résidait pas dans la pauvreté ou des circonstances extérieures, mais dans la réticence délibérée des parents à remplir leurs devoirs. Ils continuaient à insister sur leur innocence, mais la quantité de preuves recueillies témoignait de manière convaincante qu'une aide opportune n'avait pas été fournie à la fillette. Les enquêteurs n'attendaient à plus que la décision finale du procureur pour transférer l'affaire au tribunal. Lorsque les médecins légistes ont finalement annoncé leur conclusion, il est devenu clair que la mort d'Anna n'était ni soudaine, ni inévitable. Le rapport officiel a confirmé « La fillette est morte d'un choc septique, causé par de nombreuses escarres et un empoisonnement général de l'organisme. » Cette conclusion a complètement changé la perception de toute l'histoire, car elle prouvait que la tragédie aurait pu être évitée. Les spécialistes ont expliqué que les escarres se sont développées progressivement et ont conduit à de graves infections en raison de l'absence totale de soins et de conditions hygiéniques. Les médecins ont souligné qu'une aide opportune ou au moins des soins médicaux minimaux auraient considérablement augmenté les chances de survie d'Anna. Cependant, les parents évitaient les contacts avec les médecins et les services sociaux par crainte de questions inutiles et de conséquences possibles. L'enquête a révélé que les parents n'avaient jamais appelé d'ambulance pendant tout ce temps, n'étaient pas allés à l'hôpital et n'avaient même pas essayé d'utiliser l'assistance sociale disponible. Voisins et personnel scolaire ont confirmé que mère et père cachaient la situation réelle de toutes les manières possibles et évitaient le contrôle externe. Les subventions qui entraient régulièrement sur leur compte bancaire n'étaient là pas dépensées pour les besoins médicaux d'Anna. Sur la base de toutes les preuves recueillies, les enquêteurs sont arrivés à une conclusion sobre. Il s'agissait d'une inaction consciente des parents, qui comprenaient les risques mais n'ont pas pris de mesures pour sauver leur enfant. C'est pourquoi la police et le parquet ont porté des accusations de maltraitance d'enfants avec des conséquences graves. Initialement, la version d'une mort par négligence a été discutée, mais les faits ont obligé les enquêteurs à envisager également des accusations plus graves. Lorsque les parents ont comparu à nouveau devant les enquêteurs, on les a officiellement informés qu'ils étaient en état d'arrestation. Les enquêteurs leur ont présenté les résultats des rapports, les témoignages de médecins et de spécialistes, qui confirmaient clairement la longue absence d'aide médicale. Le père a tenté de se justifier en disant « Nous ne savions pas que c'était si grave ». Mais ces paroles ont été réfutées par des documents de la polyclinique où figuraient des instructions claires sur les soins. La mère a de nouveau évoqué le manque d'argent. Mais le parquet a rappelé que les parents ne s'étaient jamais adressés aux services sociaux qui auraient pu fournir une aide gratuite. Le rapport des experts médicaux est devenu le tournant de toute l'enquête. Il indiquait clairement un lien direct entre l'inaction des parents et la mort d'Anna. Le choc septique a été causé par de graves infections des escarres, qui ne pouvaient survenir que dans des conditions de manque prolongé d'hygiène et de soins. Après l'arrestation, mère et père ont été conduits au centre de détention provisoire. Le parquet a déclaré officiellement que les actions des parents constituaient de la maltraitance d'enfants ayant conduit à la mort de l'enfant. La version originale d'une mort accidentelle a maintenant complètement perdu sa pertinence. Les dossiers de l'enquête parlèrent d'un caractère conscient de l'inaction. Ainsi, l'enquête officielle a confirmé que la mort d'Anna n'était pas une tragédie inévitable, mais un résultat direct de négligence et d'évitement conscient de l'aide de médecins et de services sociaux par les parents. La peur des vérifications et la réticence à laisser entrer des étrangers dans la maison sont devenues la raison principale pour laquelle Anna n'a pas reçu les soins nécessaires pendant si longtemps. Lorsque la police est intervenue, il était déjà trop tard. Le rapport final était catégorique. La mort d'Anna est le résultat d'une négligence systématique et d'une ignorance consciente des recommandations médicales. La famille recevait formellement des subventions, mais ne les utilisait pratiquement pas aux fins prévues. L'arrestation des parents et le transfert de l'affaire au tribunal sont devenus la conclusion logique d'une longue et douloureuse histoire d'enquête. Les dossiers de l'affaire ont été transmis aux journalistes et aux organisations publiques pour attirer l'attention sur le problème et prévenir des tragédies similaires à l'avenir. Services sociaux et police ont souligné la nécessité d'une intervention opportune et ont rappelé l'existence de nombreux programmes et fondations prêts à fournir une aide gratuite aux familles avec des enfants gravement malades. Finalement, les parents ont été traduits en justice pour maltraitance d'enfants ayant conduit à la mort de l'enfant. L'affaire est officiellement passée à la phase judiciaire, sans exclure un durcissement de l'article d'accusation. Au moment de la conclusion de l'enquête officielle, il n'y avait plus de doute. La tragédie ne s'est pas produite en raison de la maladie incurable d'Anna, mais à cause de l'indifférence et de l'inaction criminelle de ses plus proches parents. Lorsque les spécialistes du service médico-légal ont commencé à préparer soigneusement le corps d'Anna pour le transport, ils ont fait une découverte horrible qui a choqué même des experts expérimentés. Au moment où ils ont essayé de soulever la fillette du lit, il est devenu clair que sa peau avait littéralement fusionné avec la housse du matelas. La situation était si critique qu'il était impossible de séparer le corps sans intervention chirurgicale. Les médecins ont confirmé par la suite que les tissus et la peau avaient été gravement endommagés en raison du long séjour dans une position et de l'absence totale de soins. Les experts ont expliqué qu'un tel état ne se produit que lorsqu'une personne n'est pas déplacée pendant une longue période et ne reçoit pas même une attention médicale minimale. Les escarres sur le corps de la fillette étaient devenues si profondes qu'elles avaient sans provoqué une nécrose, faisant fusionner la peau avec le tissu du matelas. Dans les documents, les médecins légistes ont directement indiqué que la cause était le mépris à long terme des mesures d'hygiène de base et des recommandations médicales. C'est précisément ce fait qui a été cité par les enquêteurs et les juges comme l'une des preuves les plus claires de négligence de la part des parents. Même des spécialistes expérimentés ont été horrifiés par la gravité de ce qu'ils ont vu. Pour séparer correctement et soigneusement le corps d'Anna du matelas, il a fallu faire appel à des médecins supplémentaires ayant des compétences chirurgicales. Dans le rapport, il a été noté que cet épisode tragique a nécessité un travail supplémentaire, car le tissu du matelas était devenu partie intégrante de la peau endommagée de la fillette. Cet épisode est devenu un moment clé dans l'enquête et a laissé l'impression la plus profonde sur tous les participants à l'affaire. Si auparavant quelqu'un pouvait penser que les parents avaient simplement manqué le moment de la détérioration de l'état de la fillette, maintenant toutes ces versions ont été complètement détruites. Les médecins légistes ont souligné que de telles lésions ne surviennent qu'en cas de manque prolongé de soins et d'ignorance totale de l'aide médicale. Dans le rapport final, ce détail a été mis en évidence comme une confirmation décisive de la gravité avec laquelle les parents avaient négligé l'état d'Anna. Les experts ont confirmé qu'avec une attention minimale et des soins réguliers, un développement aussi terrible aurait pu être évité. L'analyse des lésions a permis de déterminer combien de temps l'enfant était resté immobile. Enquêteurs et criminalistes ont qualifié cette affaire comme l'une des plus graves de toute leur carrière. Ainsi, il est devenu définitivement clair que la fillette avait été maintenue dans des conditions de saleté complète et sans aucun soin élémentaire. Pour les enquêteurs, ce fait a fermé pour toujours la question de la casualité ou de la soudaineté de ce qui s'est passé. Toute explication des parents selon laquelle ils n'auraient prétendument pas eu le temps de remarquer la détérioration a été complètement réfuté par l'état du corps. Après avoir terminé toutes les procédures pour sécuriser et documenter les preuves, l'équipe d'experts a remis les documents à l'enquête avec la note que de tels cas sont extrêmement rares et témoignent manifestement d'une inaction prolongée et contrainte. C'est précisément cette terrible découverte qui est devenue le dernier argument le plus convaincant contre les parents, après lequel personne ne pouvait plus dire qu'ils n'avaient simplement pas eu le temps d'aider leur fille.